Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Seck. On va commencer avec une question pour vous, ici à Kinshasa. Est-ce qu'il y a une question pour la représentante? Oui, je vois un bras levé derrière.
Merci pour la parole. C'est Saint-Germain-des-Prés pour le compte de Patrick News. Une question à Madame Seck. C'est au regard de ces jours d'activisme qui iront jusqu'au 10 décembre. Ma question est de savoir si vous avez des rapports de synergie avec la coalition Beijing 25, qui est une association de femmes qui lutte pour la rentabilisation en République démocratique du Congo de la déclaration de Beijing qui vient de totaliser 25 ans. Qu'est-ce que vous répondez? Merci.
Vous faites bien de parler de Beijing. L'année 2020 a été une année très importante pour tous ceux qui travaillent dans le domaine du genre, parce que c'est l'année où nous avons célébré le 20e anniversaire de la, le 20e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et cette célébration s'est passée le 30 et 31 octobre ici à Kinshasa, en présence des différentes parties prenantes. Mais 2020 marque également le 25e anniversaire de la plateforme d'action de Beijing et de la déclaration de Beijing. Et s'il n'y avait pas eu COVID, en fait cette année, il y avait deux célébrations majeures qui étaient prévues. Il y avait d'abord un pré-forum qui était prévu au Mexique au mois de mai 2020, et il y avait le grand forum qui devait regrouper beaucoup de chefs d'État, les différentes parties prenantes venant des différents pays, et qui devait se tenir du 8 au 11 juillet à Paris. Et cette année, à l'occasion de la déclaration des chefs d'État au cours de l'Assemblée générale des Nations Unies, ceux qui ont suivi ont entendu le président Macron réitérer sa volonté d'accueillir durant le premier semestre 2021 ce forum qui marquerait la célébration du 25e anniversaire de la plateforme d'action et de la déclaration de Beijing. Donc, ceci pour dire que le travail qu'on fait ici en RDC, tout comme le travail qu'on fait dans les autres pays, se fait en synergie. Nous avons appuyé le gouvernement qui a, avec d'autres partenaires, qui a organisé des échanges depuis l'année dernière pour produire le rapport de la RDC. Ce rapport a été remonté pour être intégré au rapport de l'Union africaine. Et c'est ce rapport de l'Union africaine qui devait être produit au cours du forum qui devait se tenir à Paris. Donc, ce sont des actions qui se conjuguent et nous sommes contents de savoir qu'il y a cet intérêt qui se dégage ici. Merci.
Merci. On va prendre une autre question ici à Kinshasa. Quelqu'un a une question à Kinshasa? Là-bas, s'il vous plaît.
Merci, madame. Moi, c'est Flavien Moussens pour le compte de Planète Télévision. Vous venez de nous indiquer que vous avez eu des rapports, des différents rapports par rapport aux viols faits à la femme dans la province et aussi ici à Kinshasa. Mais moi, j'aimerais savoir maintenant, dans votre bureau, quelles sont les recommandations que vous, personnellement, vous avez formulées au niveau national et aussi au niveau provincial par rapport à tous ces rapports que vous avez eus dans votre bureau. Merci.
Merci. Vous savez, cette année, comme les années antérieures, nous avons parlé avec les différentes parties prenantes parce que nous sommes des partenaires et nous appuyons un gouvernement. Et nous avons noté, et je l'ai dit dans ma présentation, nous avons noté que deux initiatives majeures ont été adoptées cette année par le gouvernement. Et pour nous, ça c'est une première recommandation que nous faisons, parce qu'il ne peut pas y avoir d'action concrète s'il n'y a pas le volet politique. Donc ici, le volet politique et stratégique a été mis en œuvre parce qu'il y a eu l'adoption de la stratégie nationale révisée contre les violences basées sur le genre, et il y a eu également le plan d'action 1325, deuxième génération, pour la RDC, et les deux ont été adoptés par le Conseil des ministres. Donc ça signifie qu'au niveau politique, une des recommandations que nous faisions pour avoir un cadre politiques et stratégiques pertinents est en train d'être mis en œuvre. Maintenant, avoir un cadre politique est une chose. Disséminer ce cadre politique pour que tout le monde puisse le comprendre en est une autre. Donc, une forte recommandation que nous faisons et que tous les partenaires font, c'est qu'on passe à une dissémination de ce cadre juridique, stratégique, normatif qui existe, afin que partout en RDC, que ce soit à Kinshasa ou au niveau des provinces, les gens puissent comprendre le contenu de ces cadres-là, puissent se l'approprier et puissent l'utiliser pour pouvoir lutter de manière efficace contre l'impunité, contre les violences faites aux femmes. Et l'autre dernier élément, c'est que quand on a le cadre juridique, quand il y a la dissémination et quand nous voyons beaucoup d'organisations qui se mobilisent pour lutter contre ces discriminations, il faut un financement. Il faut, et ça c'est une recommandation forte que nous faisons, que les partenaires, quelles que soient les difficultés du moment, puissent s'engager dans leurs initiatives à appuyer la mise en œuvre de ces politiques, la mise en œuvre de cette dissémination, afin que la prise en charge puisse être effective, parce qu'il y a énormément de volonté, énormément d'initiatives à tous les niveaux ici en RDC, mais il manque cruellement des appuis financiers. Et donc c'est un appel que je lance aussi bien aux partenaires qu'au gouvernement, parce que en premier lieu c'est au gouvernement que cela incombe. Donc voilà peut-être trois recommandations, entre autres, que je voudrais réitérer ou faire. Merci.
Merci. On va aller à Goma pour une question, s'il y en a une.
Voilà. Oui, merci beaucoup. Moi, je suis Jackson Mutima. Je suis journaliste indépendant ici à Goma. Je voudrais poser une question à Madame Ndiaye concernant cette période d'activisme. Les 16 jours d'activisme pour soutenir la femme en général. J'aimerais savoir quelles sont les avancées que vous avez déjà documentées dans les différentes provinces de notre pays où plusieurs groupes armés circulent et empêchent les jeunes filles d'aller à l'école. Est-ce qu'il y a des avancées depuis que vous avez commencé la lutte que vous avez enregistrée? Merci.
Oui, je crois que le problème que vous posez est réel. Effectivement, on voit qu'il y a des difficultés au niveau du terrain, vous les avez évoquées. Il y a également le fait que même si il y a eu une politique de gratuité de l'enseignement qui a permis à plus de jeunes filles d'aller à l'école, il y a eu cette année le fléau de la pandémie de COVID-19 qui a maintenu à la maison les élèves. Et quand ces élèves ne sont plus à l'école, on voit l'impact que ça peut avoir. Ce que nous avons documenté, je l'ai déjà dit, c'est une augmentation assez importante des violences qui sont faites aux femmes et aux filles, surtout pendant le premier semestre de l'année. Je vous ai parlé d'une augmentation de 28% entre janvier et juin de cette année par rapport à l'année dernière. Et nous savons que le fait que les personnes restent confinées à la maison, que les personnes ne puissent pas aller peut-être gagner leur vie comme elles avaient l'habitude de le faire, le fait de la promiscuité, le fait de la peur également qui vient avec COVID, tout ça a créé des tensions au niveau des ménages et les enfants, souvent les filles, étaient exposés et il y a eu des conséquences. Cependant, je l'ai déjà dit, il y a cet effort qu'il y a eu de documenter ce qui s'est passé. Et on a peut-être rarement eu autant de remontées d'informations pour être centralisées, ce qui nous permet d'en savoir plus sur ce qui se passe au niveau des différentes parties du pays. Il y a également cet effort qu'on a vu des femmes victimes qui de plus en plus osent aller parler. Et il y a cet effort au niveau politique et stratégique d'avoir un cadre qui puisse servir de référence quand des actions concrètes doivent être prises. Donc tout ceci permet de dire que oui, il y a encore énormément de défis. Oui, il y a encore des problèmes, mais il y a aussi des choses positives qui se sont passées et il y a des raisons qui nous amènent à dire le travail est en train de produire des résultats. Continuons ensemble dans cette lancée et certainement que nous aurons de meilleurs résultats encore l'année prochaine.
Merci beaucoup. On va rester à Goma. S'il y a une autre question à Goma, on vous écoute.
Merci beaucoup. Moi, c'est Guilain Baloumé. Je suis journaliste dans la région des Grands Lacs. Et au fait, je voulais savoir, parce que nous avons mené des enquêtes dernièrement sur les abus et les exploitations sexuelles concernant l'épidémie Ebola, la 10e épidémie, notamment à Beni, à Butembo et dans l'est du pays. Alors, nous avons mené ces enquêtes et puis nous avions publié l'article en question. Et nous, parce que nous avions rencontré plusieurs victimes, notamment les grands acteurs, c'était les staffs des agences des systèmes des Nations Unies. Et concernant cela, bien sûr que le secrétaire général des Nations Unies s'était prononcé là-dessus. Mais jusque là, on attend encore des actions pour plus d'enquêtes, en fait, que les auteurs soient punis. Est-ce que où en est-on avec cette démarche. Mais aussi, j'avais une question par rapport à la MONUSCO d'une manière générale. Ces derniers temps, dans cette année 2020, qu'est-ce que la MONUSCO est effectivement en train de faire? Parce que la situation dans le pays est en train de s'empirer davantage, notamment les ADF à Beni, notamment aussi l'insécurité ici à Goma où nous sommes, où chaque jour, les personnes sont en train d'être tuées. Et notamment aussi la tension politique d'une manière générale en RDC. Est-ce que la population peut encore espérer quelque chose de la MONUSCO pour résoudre ce genre de situation? Merci.
Je vais commencer avec la deuxième partie de votre question qui est assez large. Nous sommes rendus il y a 2 semaines à Beni avec la représentante spéciale. À Beni, à Bunia et à Goma. Il y a effectivement une situation sécuritaire qui continue d'être extrêmement préoccupante. Nous avons une menace diffuse, en tout cas plus diffuse, plus disséminée des ADF, mais qui continue. Nous avons eu cette évasion massive à la prison de Beni qui montre qu'on doit aller au-delà d'actions militaires pures, parce que si vous arrêtez des gens qui s'évadent dans les 6 mois, tout le travail qui a été fait a tendance à être annulé. On continue de la représentante spéciale a rencontré les autorités, par exemple, à Beni, ainsi que la société civile et la population. Et quand on parle à la population, à la société civile et aux autorités, il y a effectivement des critiques qui sont émises envers nous, ce qui est tout à fait normal, mais il y a aussi des demandes. Il y a des demandes, il y a un besoin d'appui qui n'est pas que de la MONUSCO, je pense que les agences des Nations Unies, c'est pareil. Il y a des attentes, il y a des espoirs qui sont très fortes envers nous, et on est conscient de la responsabilité qui est la nôtre de répondre à ces attentes. Le porte-parole militaire a décrit tout le travail sécuritaire qui est fait pour continuer de soutenir les FRDC. J'ajouterai par exemple que juste cette semaine, nous nous sommes réunis à nouveau avec les FRDC dans le cadre d'un comité de suivi des violations des droits de l'homme attribuables aux FRDC, pour faire en sorte que nous travaillons dans un partenariat constructif et qui permette à l'armée congolaise de créer la confiance, d'avoir la confiance de la population. Donc c'est un travail au long cours qu'on continue d'essayer de faire. Et dans le même temps, il y a un dialogue social qui a été aussi organisé par la MONUSCO avec des acteurs socio-communautaires à Beni, qui va avoir lieu aussi à Ocha, à Kassindi, à Maïmoa, à Kamango. Donc on reste fondamentalement engagé auprès de la population et auprès de l'armée congolaise pour avoir une approche, je sais qu'on a tendance à dire ça depuis longtemps, mais il faut vraiment insister, une approche qui aille au-delà des opérations militaires, parce que nous devons renforcer l'autorité de l'État pour permettre à la population congolaise d'avoir les institutions nécessaires pour pouvoir régler leurs problèmes de manière pacifique. Vous l'avez dit, il y a des situations aussi à l'intérieur des villes, de certaines villes congolaises, où la criminalité et le banditisme sont une préoccupation majeure. Je l'ai dit, par exemple, dans ma déclaration au départ, nous travaillons avec les autorités à Butembo, nous travaillons aussi, d'ailleurs, avec les autorités à Goma, pour voir comment on peut améliorer la sécurité sur place. Il est vrai que les forces de sécurité congolaises dans les villes sont principalement responsables, encore plus qu'ailleurs, de la sécurité de leurs citoyens, mais évidemment on reste engagé auprès de nos partenaires pour à la fois améliorer la sécurité urbaine, mais le cœur de notre mandat restant bien entendu la lutte contre les groupes armés et les milices dans le pays. Concernant les cas d'exploitation et d'abus sexuels, vous l'avez vu, le secrétaire général a appelé les agences concernées, pas seulement les agences des Nations Unies, d'ailleurs, il y avait aussi des organisations non gouvernementales internationales et nationales qui étaient concernées, à mener des enquêtes. Ces enquêtes ne sont pas faciles, ces enquêtes ne sont pas rapides à conclure. Il y a la voix des victimes, il y a aussi un travail de vérification à faire derrière. Donc l'Organisation mondiale de la santé, l'UNICEF, et les autres ONG, et les ONG qui étaient concernées par les révélations qui ont été faites par les journalistes, sont déterminées à faire la lumière sur ces agissements. C'est malheureusement une réalité que des populations vulnérables, dans des situations de vulnérabilité, certaines populations sont exposées à des abus. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour prendre des mesures préventives et correctives à ce type de comportement, et nous sommes aussi mobilisés pour dire aux victimes qu'elles doivent venir vers nous. On ne peut rien faire si les victimes ne viennent pas nous dire ce qui s'est passé. Donc, comme le disait Awa dans sa déclaration, la représentante, quand on a plus de cas, c'est à la fois inquiétant parce qu'on aimerait ne pas en avoir, mais ça montre aussi qu'on a des mécanismes qui sont en place pour que les victimes puissent se manifester. Et dans le cas de la réponse Ebola, il semble qu'il y ait eu des manquements dans les structures qui étaient disponibles pour que les victimes puissent venir. Beaucoup de victimes, à ce que j'ai lu, ont dit qu'elles ne savaient pas où elles pouvaient, à qui elles pouvaient s'adresser pour porter plainte. Et donc ça, c'est quelque chose que le coordonnateur humanitaire ici essaye d'améliorer. Il a lancé une revue de la stratégie sur la lutte contre les cas d'exploitation et d'abus sexuels, et nous allons continuer à travailler avec nos partenaires pour que ce type de comportement ne se passe plus, tout simplement. Peut-être vous voulez rajouter quelque chose?
Non, je pense que Mathias a couvert la question. Ce que je voudrais juste dire, c'est que les Nations Unies, sous le leadership du secrétaire général au niveau global et ici, sous le leadership de la représentante spéciale du secrétaire général et le leadership du représentant spécial adjoint, qui est également coordonnateur humanitaire, lutte très clairement, applique très clairement la politique des Nations Unies en la matière, qui est un rejet total, une non-acceptation. Mais alors, ce n'est pas possible. Nous luttons de la manière la plus stricte possible contre tout cas d'abus et d'exploitation sexuelle. Ça, c'est vraiment le maître mot qu'on aimerait répéter. Les Nations Unies ne tolèrent en aucun cas d'abus ou d'exploitation sexuelle. Et tout le travail d'explication, le travail de dissémination, le travail d'ouverture pour accueillir ceux qui auraient des cas à soumettre, tout ce travail-là est fait et continuera à être fait. Et nous vous encourageons à nous aider à faire passer le message pour qu'il y ait zéro cas dans ce pays, parce que je pense que c'est ça l'objectif final qu'on voudrait atteindre.
Merci beaucoup. Une question ici. Henri, le micro pour Christine.
Merci Mathias. C'est Christiane Ekambo, éditrice du journal des Nations.net. Ma question s'adresse à Madame Awa. Madame Awa, moi ici, je voudrais insister sur le 16 jours d'activisme. Effectivement, on constate, moi je le sais, qu'il y a plusieurs ONG de défense des droits de l'homme, le ministère du genre, l'ONU Femmes elle-même, qui s'attellent aux 16 jours d'activisme. Donc il y a plusieurs années que cela se fait. Mais apparemment, au niveau quand on sonde le public, même ici quand je suis arrivée, je leur ai dit qu'il y a le lancement de 16 jours d'activisme. Mes consoeurs ne le savaient pas. Et je voulais savoir qu'est-ce que vous faites pour qu'il y ait cette année, c'est-à-dire je voulais précisément demander quelles sont les stratégies que vous avez mises en place pour que ces 16 jours soient plus connus au niveau, qu'il y ait un impact visible au niveau de la communauté, de la population congolaise et surtout aussi au niveau des médias. Qu'est-ce que vous avez fait qui soit différent par rapport à ce que vous avez fait durant d'autres, les années précédentes? Merci.
Je pense que cette année est une année spéciale pour tout le monde. Covid a déstructuré beaucoup de choses et Covid a changé beaucoup d'habitudes. Nous avons toujours travaillé à partager les informations, à organiser des séances présentielles où on pouvait se retrouver pour échanger, pour faire un certain nombre de coordinations. Mais du fait des restrictions, cette année moins que les années passées, nous avons dû utiliser plus le virtuel que le présentiel. Et quand on est dans un contexte où peut-être l'accès à Internet n'est pas aussi facile pour tout le monde, ça peut poser un problème. Ça ne vous exonère pas parce que vous êtes des médias et ça fait des années que nous fêtons ça. Ce n'est pas uniquement l'événement de ONU Femmes, des Nations Unies ou du gouvernement, c'est l'événement du monde entier. Donc les 16 jours d'activisme, c'est une période de l'année qui constitue une étape que nous voulons tous mettre en valeur, mettre en exergue. Parce que je l'ai dit ici l'année dernière et les années d'avant, 16 jours pendant une année, ce n'est pas beaucoup. Mais c'est juste une façon d'amplifier ce que nous avons fait pendant le reste de l'année. Et c'est pour prendre le temps de nous arrêter, pour nous refléter, pour jeter un regard en arrière sur ce qui a été réalisé et nous projeter vers le futur. Donc ce que vous dites peut être tenu en compte pour que vous nous aidiez à mieux disséminer certaines dates. La période le 8 mars, le 25 novembre, et quand je vous dis le 25 novembre, c'est aujourd'hui le lancement. Nous avons le 2 décembre, je sais qu'il y a la journée internationale de lutte contre le sida. Je sais que le 9 décembre, c'est la journée internationale de lutte contre la corruption. Le 10 décembre, c'est la journée internationale des droits de l'homme. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de dates pendant ces 16 jours qui sont célébrées. Alors je voudrais retenir ce que vous avez dit pour dire que nous pouvons tous faire plus d'efforts pour que la dissémination se fasse de manière encore plus large, afin que l'année prochaine, on ait plus de monde qui soit préparé et que vous veniez dans cette salle en orange, comme nous le faisions les autres années. Mais encore une fois, vraiment, cette année est une année un peu spéciale qui a changé énormément de choses que nous avions l'habitude de faire et la façon dont nous avions l'habitude de les faire. Merci.
Une dernière question pour Mimiche.
Merci Mimiche, l'UTTCC-TV. Vous le répétez chaque fois et cette année, c'est une année spéciale. Est-ce qu'on peut savoir le nombre de cas jusque-là de femmes violées par rapport à l'année précédente? Merci.
Je vous ai effectivement parlé des chiffres. Je vous donnerai juste une illustration. De janvier à juin, du 1er janvier au 30 juin, nous avons recensé 26 908 cas. Et je vous ai dit que ceci représente une augmentation de 28% par rapport à l'année passée. Encore une fois, nous devons faire une double lecture de ce chiffre. Un, il y a une augmentation de 28%, ça veut dire qu'il y a plus de cas. L'autre lecture, c'est que, comme le disait tout à l'heure Mathias, il y a plus de femmes et de filles qui ont le courage de sortir pour dénoncer les cas de violence sexuelle. Maintenant, ce chiffre, il faudrait retenir qu'il ne correspond certainement pas à toute la réalité sur le terrain, parce que nous avons malheureusement encore des cas qui ne sont pas rapportés du fait des pressions au niveau familial, au niveau communautaire, au niveau national. Et tant qu'on ne parviendra pas à mettre de côté ces pressions, on n'arrivera pas à un rapportage qui soit représentatif de la réalité. Mais rapporter est une chose. L'autre chose, c'est d'aller tout au long du processus de la chaîne pénale pour être sûr que les coupables sont punis et que les victimes sont appuyées et réhabilitées. Et je pense que si nous faisons ce travail-là, peut-être que ces 26 000 cas pourraient augmenter l'année prochaine ou pourraient diminuer, mais nous verrons surtout des survivantes qui auront récupéré de ce traumatisme et qui auront gagné à nouveau le droit de vivre une vie normale, et les coupables seraient ceux qui devraient être quelque part pour payer pour ce qu'ils ont fait et qu'ils n'auraient pas dû faire. Et nous comptons sur vous, les médias, pour nous aider dans ce travail. Mais nous comptons sur les hommes, parce que nous ne voulons pas qu'on pense qu'il y a des acteurs, des coupables qui sont des hommes et des victimes qui sont des femmes. Nous voulons que ce soit une lutte commune qui amène les différentes parties de la société à se mettre ensemble pour dire non aux violences sexuelles, non aux discriminations à l'égard des femmes, parce que c'est ça qui va permettre à la société de pouvoir évoluer dans les bonnes conditions. Merci.
Et merci beaucoup, merci à tous. On se retrouve dans 2 semaines. Passez une belle journée, merci.